Il est tout juste 8h. Et c'est le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin de la chlorophylle préservée sur des dizaines de milliers d'hectares. Naissance du parc national des forêts, aujourd'hui 11e de France entre le Grand Est et la Bourgogne. Le chat forestier, entre autres espèces protégées, va pouvoir continuer à y bagnauder tranquillement. À l'inverse, les zones cultivées et les pesticides, toujours plus inquiétants. On va parler de la toxicité des fongicides révélé par une étude aujourd'hui. Voilà qui ne va pas arranger les relations entre agriculteurs et consommateurs. L'agribashing, entre autres, au menu du grand entretien tout à l'heure.
On sera avec Jean Viard dans une vingtaine de minutes au micro d'Inter. Il publie par ailleurs un court livre sur la jeunesse, un nouvel âge jeune, point d'interrogation. Devenir adulte en société mobile, c'est aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. Vous pouvez dialoguer avec Jean Viard. 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, les APL recalculées tous les trimestres. Gros changement à venir à partir du 1er janvier. 8000 pieds de cannabis cultivés en plein centre de Roubaix. Saisie record de la police avant-hier. La Chine qui bannit les jeux vidéo après 22 heures pour les mineurs. Et un nouveau sport mélange de boxe et d'échecs. C'est le chess boxing sur une idée d'Enki Bilal.
France Inter.
Quand l'État préserve la nature, pas celle du triangle de Gonesse, cultivé et enchâssé entre les aéroports de Roissy et du Bourget, et dont le projet de vaste centre commercial et de loisirs Europa City a été enterré par Emmanuel Macron hier. Non, on parle de vraie nature ce matin, de forêt aux confins de la Bourgogne et de la Champagne, sanctuarisée grâce à la création de ce 11e parc national de France. 240 000 hectares de feuillus qui seront donc protégés désormais avec leur source d'eau et leur faune unique, comme l'explique Hervé Parmentier qui dirige ce projet de parc à Saint-Didier-Dauphin, au milieu des arbres.
Plus de 80% des forêts qui nous entourent étaient là au moment de la Révolution française. Et ça n'existe que très rarement ailleurs en France. Ce qui veut dire qu'on a des végétaux, des animaux très très particuliers. Des espèces comme la cigogne noire, comme le chat forestier, des espèces très très fragiles, très très sensibles, qui nichent ici dans ce parc national.
Alors, autre particularité de ce parc, c'est qu'il y aura 3000 hectares où, en gros, ce sera vraiment une réserve scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, ça, c'est le côté magique du parc national. Ça sera le seul endroit en France où on aura, sur une aussi grande surface, une forêt qui va redevenir sauvage. Et ça, c'est un projet scientifique unique. C'est une forêt, effectivement, où il n'y aura plus d'exploitation forestière. Et on va regarder comment la nature se réorganise. Et ça, on ne le connaît pas. Ça va être un merveilleux laboratoire pour accueillir les scientifiques. Et ce parc national deviendra le centre européen de la recherche forestière.
Avec ce parc, le gouvernement progresse pour faire respecter l'engagement d'Emmanuel Macron qui promet 30% d'air protégé sur le territoire français d'ici à 2022. Cela dit, les territoires protégés, hélas, n'échappent pas toujours aux braconniers. Le parc national des Calanques de Marseille, devant le tribunal aujourd'hui, va demander la somme de 450 000 euros à des pêcheurs qui ont approvisionné des poissonniers et des restaurateurs en pillant les fonds marins où la pêche est interdite. À plus grande échelle, Greenpeace s'inquiète du matériel abandonné au fond des océans. 640 000 tonnes de filets, de lignes, de pièges en tout genre, souvent perdus par l'industrie de la pêche. Les filets tuent chaque année 100 000 baleines, dauphins, phoques ou tortues. Greenpeace estime que les pêcheurs doivent récupérer leur matériel ou bien payer une taxe.
Il est 8h04, vous écoutez France Inter, la suite du journal Florence Paracuellos.
Et de la pêche, on passe à l'agriculture. On connaît les méfaits de certains pesticides sur la nature et sur l'homme. On s'intéresse aujourd'hui aux fongicides. Des chercheurs de l'INSERM publient une étude sur les SDHI, ces substances utilisées contre les champignons qui peuvent ravager les cultures. Et selon leurs conclusions, Anne-Laure Barral, ces molécules sont toxiques pour l'environnement et pour l'organisme.
L'étude a été menée dans un laboratoire de l'INSERM au sein de Robert Debré à Paris et montre que ces produits fongicides, les SDHI, bloquent la respiration des cellules humaines mises en culture. Elles arrivent même à les tuer quand il s'agit de cellules déjà fragiles. Pour le généticien Pierre Rustin du CNRS qui a participé à ce travail, ces substances augmentent donc le risque de maladies neurologiques, en particulier pour les agriculteurs utilisateurs de ces produits, sans compter leurs effets délétères également constatés d'activité sur les vers de terre et les abeilles. Il avait déjà alerté en janvier dernier sur les dangers encore trop sous-estimés selon lui des SDHI pour demander à l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, de revoir leur autorisation de mise sur le marché pour au moins 8 des 11 produits autorisés en France sur le blé, le colza mais aussi les fraises et les carottes. L'ANSES de son côté estimait ne pas voir les mêmes risques sur la santé humaine que le professeur Rustin.
Voilà, ces substances sont aussi utilisées, sachez-le, sur les terrains de football.
Quel montant, Florence, quel montant pour les APL à partir du 1er janvier?
Leur mode de calcul va changer. Les CAF commencent d'ailleurs à envoyer des lettres pour l'expliquer aux 6,5 millions de bénéficiaires des allocations logement. Ce ne sont plus les revenus touchés 2 ans plus tôt qui seront pris en compte, mais ceux des 12 derniers mois. Et les aides seront réévaluées chaque trimestre dans ces conditions. Qui y gagne et qui y perd? Réponse avec Hélène Philly.
C'est une réforme juste pour le ministre du Logement. Chacun aura ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Une perte de revenus sera prise en compte beaucoup plus vite. À l'inverse, un étudiant qui gardait son allocation un moment après son entrée dans la vie active verra désormais son APL baisser dès le 3e salaire. Un chiffre fait tout de même dire au président de l'association de consommateurs CLCV, Jean-Yves Manot, qu'il y aura plus de perdants que de gagnants.
L'État en attend 1,4 milliard d'économies sur le budget des APL pour l'année 2020. Il y a donc plus de perdants que de gagnants. On cible toujours le même public de cette petite couche moyenne qui fait des efforts. Eh bien, on va encore leur enlever 10, 15, 20 ou 30 euros par mois parce qu'ils auront éventuellement un gain supplémentaire relativement limité par rapport à l'activité professionnelle.
Selon les estimations de la Caisse nationale des allocations familiales, 1 200 000 personnes devraient voir le montant de leur APL baisser et 600 000 ne toucheront plus rien. Ce n'est pas le résultat de la réforme, mais une conséquence de la reprise économique, juge le ministère. Plus de travail, une situation financière qui s'améliore, donc moins d'aide. Une exception est faite pour les étudiants. Le montant de leur APL ne baissera pas, même s'ils travaillent pour payer leurs études.
Et la CAF va mettre un simulateur sur son site à partir du mois de décembre pour que chacun puisse faire son calcul. Loin du petit cannabiculteur qui fait pousser de la marijuana dans sa salle de bain, les trafiquants voient grand dans le Nord où les policiers tombent de plus en plus souvent sur de petites fermes à cannabis. Ainsi, c'est 8000 pieds découverts dans un entrepôt loué à la mairie de Roubaix, un record en France. Louise Thoman.
Un entrepôt de 2000 mètres carrés en plein centre de Roubaix dans la métropole lilloise, couvert de plants de cannabis. Une plantation industrielle, une vraie serre avec du chauffage, de l'irrigation, une ventilation pour que ces 8000 plants poussent et produisent massivement. Une échelle de culture qui inquiète la PJ lilloise. Entre 2015 et 2019, le nombre de pieds saisis par an a été multiplié par 15. C'est une des spécificités de la cannabiculture dans la région. Elle est le plus souvent industrielle et pour deux raisons, selon la police. D'abord, la proximité avec la Belgique et les Pays-Bas où cette marchandise s'écoule facilement. Ensuite, la densité urbaine et les nombreuses friches industrielles qui permettent de plus facilement dissimuler les va-et-vient des personnes nécessaires pour entretenir les plants. Rien que cette année, en février, 10 000 pieds ont été trouvés à Tourcoing, puis 3 000 à Roubaix le mois suivant. Au total, ce sont 15 000 pieds qui ont été découverts et détruits par les forces de l'ordre dans le Nord en 2019.
Et 2 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Ces 8 000 plants auraient pu à terme générer des revenus estimés entre 5 et 6 millions d'euros par an. Autre réseau lucratif démantelé en région parisienne, où des moniteurs et des directeurs d'auto-écoles du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis monnayaient des faux permis de conduire à 4000 euros pièce, 1500 pour le code avec la complicité d'inspecteurs du permis de conduire. 9 personnes ont été mises en examen après 1 an d'enquête de la PJ parisienne. Cap sur les municipales. En mars prochain, chacun affûte sa stratégie pour ses élections. Yannick Jadot entend bien surfer sur la vague écolo et sur les 13% de voix accordées aux Verts aux dernières élections européennes. Il lui faut des villes maintenant, comme Montpellier par exemple, où il se rendra tout à l'heure pour soutenir la candidate verte Clotilde Ollier. Demain, on l'attend à Paris, au salon du Made in France. Bref, Yannick Jadot bat la campagne. Laurence Perron.
Les municipales pourraient jouer la rampe de lancement du futur candidat vert en 2022, d'où sa démultiplication sur le terrain en super VRP de l'écologie politique. La volonté affichée très haut, c'est d'avoir des candidats partout au premier tour, et ce refus de jouer la traditionnelle alliance des gauches. La référence, c'est Grenoble, où en 2014, tout le monde a rallié le panache vert d'Éric Piolle, qui a fini par rafler la mairie. L'objectif aujourd'hui, c'est de parvenir à accrocher d'autres villes de plus de 100 000 habitants dans le viseur, Nantes, Rennes. Ça frémirait aussi à Rouen après Lubrizol. Il s'agit de s'attaquer aussi à toutes les grandes villes, sans exclusive, parce qu'en grossissant les conseils municipaux, les écologistes se préparent aussi de futurs grands électeurs pour le renouvellement du Sénat. En clair, les Verts font feu de tout bois et préviennent leurs anciens alliés à gauche. Plus question de jouer les supplétifs, vous allez apprendre à connaître Monsieur Jadot.
Emmanuel Macron à Berlin dimanche à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur. Il rencontrera Angela Merkel qui en profitera sans doute pour lui dire de vive voix ce qu'elle a pensé de ses dernières déclarations. L'OTAN en état de mort cérébrale, l'Europe au bord du précipice. La règle des 3% de déficit, débat d'un autre siècle, a dit le président dans une interview à la presse britannique. Jugement intempestif et vision radicale a réagi la chancelière allemande. Et de 4 en Espagne, 4e élection législative en moins de 4 ans dimanche pour cause d'absence de majorité absolue pour le socialiste Pedro Sanchez. Ces dernières semaines, c'est la Catalogne qui s'est imposée comme sujet majeur de la campagne depuis le 14 octobre et la condamnation de 9 leaders indépendantistes à de lourdes peines de prison pour avoir participé à l'organisation d'un référendum illégal en 2017, début d'une vague de protestations qui ne s'éteint pas. À Barcelone, des indépendantistes précisément campent depuis 10 jours sur une place du centre-ville. Reportage Isabelle Labéry.
Si Joël, l'étudiant, dort sous une tente depuis 10 jours, c'est parce qu'il est en colère contre le gouvernement espagnol et qu'il veut le faire savoir.
Après les condamnations, c'est vrai, les gens sont devenus un peu chauds. Mais s'il y a de la violence, c'est celle de la police qui nous donne des coups de matraque sur le crâne et dans les testicules. La police qui fonce à toute vitesse sur les manifestants avec ses fourgonnettes. Si on a fait des barricades, c'était pour se défendre.
La tension est telle que pour le scrutin de dimanche, Louis s'imaginait même un autre scénario.
Moi, j'aurais préféré qu'on boycotte pour montrer à quel point les Catalans rejettent l'État espagnol et l'ordre établi.
Les partis indépendantistes espèrent sortir renforcés du scrutin, même s'ils se font peu d'illusions sur un fléchissement de Madrid. Benet Saliesas est l'un de leurs avocats.
Les Catalans ont un poids politique, démographique, économique. On entre dans une phase de blocage relativement longue.
Signe que la reprise du dialogue n'est pas pour demain, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste donné vainqueur, vient de proposer de modifier le code pénal pour interdire, je cite, une bonne fois pour toutes, les référendums illégaux en Catalogne. Barcelone, Isabelle Labéry, France Inter.
Il s'appelait Alex Chow, étudiant hongkongais, tombé d'un parking à étage le week-end dernier lors d'affrontements avec la police. Il est mort ce matin à l'hôpital, ce qui pourrait bien faire monter encore la tension dans les rues de Hong Kong où les manifestants pro-démocratie appellent déjà à des veillées à la mémoire de leurs camarades. En Chine, justement, voilà une nouvelle qui va forcément vous intéresser, vous qui tentez désespérément de raisonner vos enfants qui passent des heures à jouer aux jeux vidéo. Envoyez-les donc à Pékin, où le gouvernement vient d'instaurer un couvre-feu sur les jeux. La nuit, c'est rideau dans tout le pays pour les moins de 18 ans. Écran noir à partir de 22h. Dominique André.
Ne plus jouer aux jeux vidéo en ligne entre 22h et 8h du matin, la nouvelle réglementation chinoise impose en fait aux mineurs de dormir la nuit. Dans la journée, ils ne pourront pas jouer plus de 90 minutes d'affilée et les dépenses en ligne sont limitées à 36 euros par mois pour les moins de 16 ans, le double pour les moins de 18 ans. Monsieur Guo, le père d'un enfant de 10 ans, approuve cette réglementation.
Je suis contre ces jeux vidéo pour les mineurs car le contenu est beaucoup trop vulgaire. Les enfants sont en contact avec des scènes violentes. Ils sont beaucoup trop jeune pour ça. Je peux contrôler facilement son smartphone. Le problème, c'est quand il est sur Internet en dehors de la maison. Là, c'est difficile.
Madame Ming préfère faire la police elle-même. Son fils a 6 ans et joue déjà en ligne.
Je lui donne 20 minutes tous les jours pour qu'il puisse jouer. J'arrive à contrôler cette durée. Le problème, c'est qu'il a des ordinateurs, des tablettes, des smartphones partout. Je trouve que c'est impossible de tout éviter. J'essaie de l'éduquer pour qu'il puisse se contrôler lui-même.
Cette nouvelle réglementation est l'un des sujets les plus évoqués sur Weibo, le Twitter chinois. Mais l'addiction aux jeux est également un problème chez les adultes chinois. Les parents doivent aussi donner l'exemple. Pékin, Dominique André, France Inter.
Eux sont sur le pont jour et nuit. Les premiers skippers de la Transat Jacques Vabre sont arrivés à Salvador de Bayato ce matin. Gilles Lamiré et Antoine Carpentier sur leur petit trimaran avant l'arrivée des princes des mers sur leurs Imoca, les bateaux du Vendée Globe attendus demain avec une victoire désormais promise à Charlie Daline et Yann Eliès. Enfin, voici un nouveau sport né d'une idée d'Enki Bilal dans une de ses BD. Le chess boxing mélange la boxe et les échecs, comme son nom l'indique, la force et la stratégie. C'est un artiste néerlandais qui en a instauré les règles. Et Guillaume Batin, les premiers combats organisés en France auront lieu demain à Paris.
Les deux combattants sont en tenue de boxe, torse nu. Ils débutent autour de la table d'échecs par un premier round de 2 minutes, le second sur le ring jusqu'à la 11e reprise. Le vainqueur a mis KO ou en échec et mat son adversaire.
Ladies and gentlemen, welcome to the Intellectual Fight Club.
Valentin Marcel joue aux échecs depuis son enfance. Il a commencé la boxe il y a 4 mois et il va participer au combat de chess boxing demain soir à Paris.
Round one, chess.
Alors, la clé, c'est la concentration, du début jusqu'à la fin, sans jamais s'arrêter. La moindre erreur, que ce soit sur l'échiquier ou sur la boxe, peut finir le combat. Le joueur d'échecs devra combattre cette peur au début. Le boxeur, lui aussi, devrait combattre sa peur de jouer aux échecs. Peur plutôt psychologique. Les deux doivent faire leur propre combat intérieur.
Guillaume Salençon est le président de la Fédération française et cousin du champion du monde 2017, Thomas Cazeneuve.
C'est deux mondes qui auraient jamais dû se rencontrer. C'est juste l'école de la vie. C'est la vie qui est comme ça. La vie est difficile, elle est violente. Il faut réfléchir, il faut éviter, il faut anticiper. C'est tout ce qui se passe dans le chessboxing.
La Fédération française de chessboxing va tenter de décrocher son agrément auprès du ministère des Sports et les instances internationales rêvent d'entrer au programme des Jeux Olympiques dans les 20 prochaines années.
Et attention Nicolas, parce que si votre fou prend marraine, je vous promets, c'est lui percute. Hein.
Et je vous crois, je peux vous dire. Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et je n'hésite pas à le dire, la situation est automnale.
L'heure est grave. Ce matin, beaucoup de passages nuageux et des grisailles sont prévus sur la moitié est de l'Hexagone, entre les Hauts-de-France, le Val-de-Saône et le Rhône, et les brouillards matinaux très présents. Sur les reliefs, les passages nuageux peuvent laisser échapper quelques flocons des 1000 mètres, exception faite des Vosges, tandis qu'ils lâcheront encore de bonnes averses sur la Corse. À l'ouest, les nuages sont porteurs d'averses assez fréquentes près du littoral atlantique, notamment entre la Vendée, les Charentes et le Pays Basque, pouvant aller jusqu'à l'orage, accompagné d'un vent assez sensible près des côtes, jusqu'à 90 km/h. Et puis, cet après-midi, cette zone active va concerner tout le sud-ouest jusqu'aux Pyrénées. Les averses vont remonter jusqu'au sud de la Loire. Au nord et sur la moitié est, en revanche, le temps va s'améliorer. Les nuages laisseront passer de belles éclaircies. La grisaille va se réfugier sur les reliefs et les averses se cantonner aux côtes de la Manche. La Corse bénéficiera aussi d'une légère accalmie.
Pendant que Mercure continue de décliner.
Et il offre même quelques gelées au réveil dans le nord, le nord-est et le centre-est. Il fait 0 au Puy-en-Velay, 4 à Saint-Brieuc, Orly et Chambéry, mais 7 à Toulon et 10 à Nice. Même cet après-midi, les températures sont en baisse, souvent inférieures au normal de saison. Il ne fera pas plus de 9 degrés à Dijon, Nancy, Lille et Clermont-Ferrand. 10 dans la capitale comme à Metz, 12 à Bordeaux et 14 à Marseille.
Stéphanie Fromentin, merci. Les 8h17.